Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi.
La journée mondiale de l'Afrique a été célébrée le 25 mai dernier et au cours de ce grand dialogue, nous parlerons des acquis de l'Union africaine ainsi que des défis que cette organisation doit relever. Et nos invités sont Mokhtar Diarra, président de la jeunesse de l'Union africaine, Fousseyni Doumbia, constitutionnaliste universitaire, et Maître Amadou Thiéoulin Diarra, avocat et membre de la société civile. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Je le disais, on parle de la Journée mondiale de l'Afrique. Selon Pierre Bouyoya, représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, l'action majeure accomplie par l'Union africaine est la libération du continent du colonialisme. Cependant, l'Afrique est-elle réellement libre? Un représentant du Mi-Sahel, M. Yves Penda, va répondre à cette question.
Il faudrait d'abord se rappeler les objectifs que Bouyoya était assigné lors de sa création en 1963, précisément le 25 mai. Et l'organisation s'était donnée comme mission principale la libération des pays et des peuples africains de la domination coloniale et de la discrimination raciale, la réalisation de l'autosuffisance et la lutte contre le sous-développement, et troisièmement, la promotion de l'intégration de l'unité et de la solidarité africaine. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, que le premier aspect, qui est la libération des pays et des peuples africains de la domination coloniale et de la discrimination raciale, fait partie des plus grandes réalisations qu'on pourrait mettre à l'actif de l'Union africaine, avec la vague des indépendances et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994.
Maître Amadou Thiéoulin Diarra, partagez-vous ce constat?
Bon, oui. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Et en fait, partager de façon mitigée le point de vue, parce que il y avait dans un premier temps, dans les objectifs et de la charte en 63, et libérer les parties du continent africain qui étaient sous le joug du colonialisme. Je pense que ces luttes d'indépendance ont abouti, soit par la guerre, soit par la négociation. Dans tous les cas, les objectifs de 1963, en ce qui concerne la libération de l'Afrique, sur le plan juridique, à savoir donner la possibilité aux Africains de choisir chez eux les candidats de leur choix, et je pense que cet objectif-là, il est rempli. Alors, maintenant, là où le bas va blesser, est-ce que le fait de changer les administrateurs coloniaux par des chefs d'État que nous-mêmes nous avons élus, eh bien, ont changé fondamentalement quelque chose dans la gestion de l'Afrique. Tout le problème est là, parce que vous êtes indépendant, c'est vrai, mais en fait, il y a des accords, eh bien, qui ont permis, peut-être pas le retour, mais qui ont permis, en fait, aux anciennes puissances colonisatrices, eh bien, de rester avec nous, et sous une forme subtile, et qui ne nous permet pas, effectivement, d'être nous-mêmes. À savoir que, eh bien, dans la gouvernance, il y a la présence à présent de certaines institutions que d'autres personnes appelleraient des institutions néocoloniales, comme par exemple la Banque mondiale, comme par exemple le FMI, comme par exemple en fait les organisations de coopération internationale qui sont là et qui ne nous laissent pas les mains libres, comme par exemple ces puissances ont les leurs chez eux. Parce que un peuple qui est souverain et qui n'a pas la possibilité, en fait, de sa gouvernance économique et même politique, si nous prenons le cas du multipartisme, il a été imposé, alors qu'au lendemain des indépendances, les pères fondateurs ont dit que seuls les partis uniques sont à même, effectivement, d'être le creuset de l'unité nationale. Or, le revers aujourd'hui, c'est que le multipartisme nous a divisés plus qu'il ne nous a unis. C'est un sujet à débat. Je m'en arrête là.
D'accord, Mokhtar Diarra. Partagez-vous l'avis de Maître Amadou Tchéoulin Diarra qui pense que le bilan est mitigé?
Effectivement, j'ai le bilan, quand on regarde de 1963 à nos jours, le bilan est mitigé, surtout en ce qui concerne l'incidence, n'est-ce pas, de cette organisation-là, en termes surtout de développement chez les peuples africains. Et bonsoir, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Je ne suis pas le président, je suis le secrétaire général de la Jeunesse Union Africaine. Voilà. Donc, quand je dis que le bilan est mitigé, effectivement, comme Maître l'a si bien dit, la lutte pour la décolonisation a été atteinte, mais ce qui concerne la libération économique, la libération financière, jusqu'à présent, il y a beaucoup de faiblesses à ce niveau et il va falloir vraiment travailler à ce que nous soyons ce que nous voulons être, c'est-à-dire indépendants.
D'accord. Alors, à vous, Fousséni Doumbia, vous êtes constitutionnaliste et universitaire. L'Afrique est-elle réellement libre?
Alors, la question, elle est vraiment complexe du point de vue de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, du point de vue de la dépendance économique des États africains à l'égard de certains partenaires au développement, à l'égard de certaines puissances étrangères, du point de vue même de la forte dépendance de l'Union africaine, l'organisation continentale, à certains partenaires au développement aujourd'hui. On considère que l'Afrique n'est pas libre au vrai sens du mot. C'est vrai que du point de vue des années 60 jusqu'à maintenant, on est parti progressivement vers les indépendances. Une indépendance que moi j'appelle sur le papier, une indépendance purement formelle, parce que du point de vue économique, même du point de vue politique, on dépend fortement de l'aide extérieure. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique. Alors, les défis que l'Union africaine s'était octroyés au moment de sa création, je peux dire que ces défis n'ont pas été atteints, n'est-ce pas, à 100%, même s'il y a eu quelques avancées relativement notées ici et là. L'Afrique est toujours un continent qui dépend largement de l'extérieur. Alors, nous n'avons pas été en mesure de mettre en place une véritable politique de développement endogène de nos différents États, et nous sommes une organisation continentale, qui dépend aussi fortement pour son entretien, pour son fonctionnement de l'aide publique au développement. Et nous avons des comportements qui nous sont dictés par nos partenaires. Donc, au regard de tous ces aspects, il est vraiment très difficile de dire que les États africains sont vraiment libres, parce que nous avons beaucoup de nos comportements aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique et dans d'autres domaines qui nous sont vraiment dictés par la communauté internationale. Maître vient de nous rappeler sur le cas de la Banque mondiale et de certains partenaires bilatéraux occidentaux. Il y a des choses qui nous ont été imposées au moment des années 60 qui avaient du mal notamment à prospérer sur le terrain, parce que à l'indépendance, déjà, on était des États fragiles. Maître vient de nous rappeler sur le cas du multipartisme qui a eu du mal à vraiment prospérer en cette période, parce qu'il y avait d'autres défis, les défis du développement, les défis de l'unité nationale.
Et justement, cette question économique, nous l'avons adressée à ce représentant de l'Union africaine qui va répondre.
Alors, si l'Afrique est libre aujourd'hui, est-elle indépendante?
Vous savez, la notion d'indépendance est une notion qui est relative. Ce qui est sûr, c'est que au sein de notre organisation continentale, le processus d'intégration poursuit son cours et je puis affirmer qu'elle se poursuit avec vigueur.
Revenons un peu à l'indépendance. Peut-on parler réellement d'indépendance quand on voit que le siège de l'UEA est construit par les Chinois et que l'Union africaine même est financée par l'Union européenne?
Vous savez, dans la vie de chaque organisation et même de tous les continents, il y a un processus, il y a toujours une évolution. La coopération internationale fait partie des instruments que l'on peut utiliser et que tous les acteurs de la scène internationale utilisent pour atteindre leurs objectifs. C'est donc normal que justement notre continent puisse utiliser cet instrument de la coopération internationale. Mais vous savez, l'Union africaine est entrée dans un processus de réforme dont nous avons parlé largement à l'occasion de la journée d'information que nous avons organisée le 24 mai. Et cette réforme vise à rationaliser davantage la structure et le fonctionnement de notre organisation continentale et, entre autres, à lui assurer un financement autonome et pérenne. Et si vous étiez à cette conférence, vous avez dû remarquer à travers la brillante présentation, les brillantes présentations faites par le président Bouyoya et l'ambassadeur Patrick Camara, que des efforts importants ont été réalisés et que le processus n'est à jamais enclenché au sein de l'Union africaine pour un financement autonome. Et la garantie que je pourrais vous donner par rapport à ce processus-là, c'est le fait que cette fois-ci, l'action a été entreprise au plus haut niveau, au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et en deux ans, ce qui a été fait sous l'impulsion du président Kagame est extraordinaire. Et dans un avenir proche, on se rendra tous compte de ce que l'Union africaine, à travers ses États, prend en compte le financement de ses activités.
Mokhtar Diarra, pensez-vous comme Yves tout de suite que c'est normal que l'Union africaine à ce stade s'adosse aux partenaires?
Oui, c'est au niveau de la jeunesse africaine, nous on trouve ça déplorable qu'après plus de 50 ans, jusqu'à présent, une institution comme l'Union africaine puisse vraiment chercher des financements pour le financement surtout de ces projets de développement. Et si vous voyez un peu de l'OIA à l'UEA, vous allez remarquer qu'effectivement, à cet aspect économique et cet aspect surtout financier n'a pas été pris en compte, surtout au niveau de la structure. Et qu'aujourd'hui, on voit des chefs d'État, surtout avec le président rwandais ou bien le président du Niger, ils ont pris conscience, ils essaient vraiment aujourd'hui de réformer pour que la structure puisse être indépendante du point de vue surtout financier. Voilà.
D'accord. Fousseyni Doumbia, a-t-on l'impression que pendant toutes ces années, que les dirigeants africains se sont sentis à l'aise de bénéficier de cette aide internationale?
Il faut que cela cesse. Au regard de leur indépendance, je crois qu'on peut aller dans le sens d'un partenariat renforcé, ce qui n'est pas exclu, avec les partenaires internationaux, avec des partenaires bilatéraux. Mais la forte dépendance à l'aide, il faut que cela cesse. S'ils veulent vraiment, nos chefs d'État veulent vraiment faire honneur à leur indépendance, s'ils veulent vraiment être libres, sur la politique à mener dans le cadre de leurs États. Comme on dit, l'aide est vraiment liée. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est indépendant et après recevoir une aide où on va dicter tout ce que vous devez faire en termes de gouvernance. Ce n'est pas une indépendance au vrai sens du mot. Voilà pourquoi il faudrait peut-être mettre en œuvre des mécanismes de financement autonomes. Pourquoi pas chercher des moyens pour aller dans le sens d'un développement endogène de l'Afrique, ce qui est extrêmement important. Nous avons des potentialités énormes.
Justement, n'avons-nous pas des ressources nécessaires
pour
pouvoir...
Nous avons des ressources nécessaires pour cela. Il suffit de mettre en place une bonne politique allant dans le sens de la transformation de ces ressources, de ces matières premières. Quand vous prenez ces matières premières aujourd'hui, elles servent à profiter, n'est-ce pas, aux puissances industrialisées, à certains États, alors que ça aurait pu aussi contribuer à notre développement, ça aurait pu être une opportunité de développement endogène de nos différents États. Comme on dit, l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et produit ce qu'elle ne consomme pas. Il faut qu'on quitte de cette dynamique pour promouvoir ce qu'on appelle une création des richesses sur la base des produits que nous-mêmes nous produisons sur le terrain. Cela est extrêmement important. En plus de 50 ans déjà, comme mon prédécesseur vient de rappeler, on est en train de dépendre jusqu'à présent de l'aide publique au développement, de l'aide extérieure. Il faut que cela cesse. L'Union africaine avait posé les pas, en 2017, en mettant en place un mécanisme d'autofinancement de ses propres activités à travers...
Nous y reviendrons tout de suite. Si vous êtes d'accord, Maître Amadou Tchewlendiara, que l'Afrique a des ressources nécessaires pour pouvoir s'autofinancer, pourquoi n'arrive-t-on pas à exploiter ces ressources?
Non, parce que c'est pas qu'on n'exploite pas ces ressources. On les exploite, mais comment elles sont exploitées? Parce que l'accroissement, par exemple, de la croissance ou du développement dans un pays est dû aux entreprises et aux matières premières. Mais si nous regardons l'état des entreprises dans nos pays, en tout cas, et on note dans certains pays un recul. Parce que ces entreprises qui étaient en fait les ressorts de l'État ont été complètement en fait arrachées à l'État national pour les mettre à la disposition du privé. Or, vous ne pouvez pas demander à des entreprises privées d'organiser et de réaliser des grands travaux nationaux, en tout cas pour un pays. Mais le problème, c'est autre chose aussi. Le problème, c'est que nous avons des matières premières qui sont exploitées soit directement ou indirectement en lien avec des nationaux. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas un contrôle sur ces ressources. Si nous prenons le cas, par exemple, de l'or au Mali, mais vous savez, toutes les entreprises minières qui sont au Mali, eh bien, ont des possibilités, après l'exploitation, après que l'or ait été, en fait, mis en lingot, ils ont des possibilités, ces entreprises ont des possibilités, il y a des vols directs qui ne passent même pas, en fait, je ne dis pas le contrôle, mais qui ne passent même pas par la capitale. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que, mais quel contrôle, effectivement, les nations, et précisément, nous avons, effectivement, de l'exploitation, eh bien, de ces ressources minières. Nous n'avons aucun contrôle. Le contrôle s'entend, en fait, la possibilité que nous avons de regarder de l'extraction jusqu'à la transformation et de dire que nous avons la conscience nette que ça va vers vous et ça, c'est pour nous.
Mais est-ce que ce n'est pas avec la complicité des dirigeants africains?
Mais bien sûr, c'est pour cette raison que la question de l'indépendance, où nous sommes indépendants parce que nous nous autodéterminons en élisant nos dirigeants, mais par la suite, maintenant, les dirigeants, on achète leur conscience. On les corrompt. Et quand on vous corrompt, vous cessez d'être indépendant. Parce que les élections peuvent être des élections parfaites. Moi, je peux être d'accord avec ça. Mais aussi, il y a la possibilité de corrompre les dirigeants. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que dans des pays comme les nôtres, que les dirigeants, en fait, n'aient même pas la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la chambre, si vous voulez, dans les mines d'or, la chambre des triers. Quand vous n'aviez pas accès, on vous présente simplement ce qui en sort, alors que vous ne savez pas ce qui s'y trouve. Je trouve que aussi, ça, c'est pas vraiment dire que nous sommes indépendants. Et la question de fond, c'est cela. Or, ce sont justement ces matières premières-là qui permettent un accroissement effectivement de nos revenus. Et c'est ce qui va engendrer la croissance, c'est ce qui va engendrer le développement. Tant que nous n'aurons pas maîtrisé ça, nous ne pouvons même pas impulser l'agriculture. On ne peut pas impulser l'agriculture parce que nous ne les maîtrisons pas. Or, vous savez que c'est le jeu de ces matières premières qui font que, eh bien, nous, nous tenons. Parce que le paiement des salaires en dépend. Il y a beaucoup d'activités économiques qui en dépendent. Regardez un peu Bamako, si vous prenez Bamako, c'est du point de vue institutionnel. Mais vous avez des bâtiments neufs flambants partout. Mais est-ce que c'est ce qui signifie que, en fait, nous sommes un pays qui avance? La question, c'est autre chose.
Monsieur Diarra, oui. D'où le thème de ce 55e anniversaire, qui est « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin vers la transformation de l'Afrique ». Est-ce qu'on parviendra à lutter contre la corruption en Afrique?
Effectivement, on parviendra si réellement, si, comme tu l'as si bien dit, les dirigeants que nous avons prennent conscience par rapport à l'enjeu. L'Afrique est beaucoup en retard, mais l'Afrique dispose de beaucoup de ressources naturelles. Mais ces ressources-là sont exploitées, comme il l'a si bien dit, mais la majorité de ces ressources, les retombées, c'est les autres continents qui bénéficient. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'abord, les contrats sont mal négociés. L'Afrique a beaucoup de ressources, les contrats sont mal négociés. Et l'OP aussi, qui reste comme ressource interne ici, la mobilisation reste très très faible. Ce qui fait toujours, les pays-là, chaque fois, ils vont chercher des prêts, mais ailleurs, ils vont s'endetter. Et là, cette dette-là, aujourd'hui, constitue vraiment une charge lourde pour le développement de l'Afrique. Et il va falloir qu'au niveau des peuples et au niveau aussi des dirigeants, qu'on se donne la main, surtout à travers, par exemple, des organisations ou des entreprises. Il a cité, par exemple, le cas des entreprises ici. Où souvent, ce que nous exportons, le prix, on n'est pas maître du jeu. L'or, par exemple, on n'est pas maître du jeu. Le coton aussi, on n'est pas maître du jeu. Et c'est fixé à l'essai. Et ce qui fait que l'évolution des prix de ces matières-là, n'est-ce pas? Et c'est souvent en dents de scie. Souvent, ça augmente, le pétrole augmente, souvent ça descend. Et souvent, ça a des conséquences sur notre revenu national. Donc, il va falloir, au niveau des pays frontaliers, deux pays, trois pays, qu'on se donne la main. Par exemple, nous cultivons le coton, la Côte d'Ivoire, le coton, qu'on se donne et qu'on essaie de transformer, n'est-ce pas? Qu'on utilise nos moyens de transformer une partie des cotons que nous produisons ici,
au niveau local. Monsieur Doumbia, pardon, il l'a dit, 99% du coton malien est exporté. Mais malgré tout cela, le coton culteur continue à se plaindre. Est-ce dû à une corruption aussi?
Alors, c'est dû surtout à un mauvais contrôle, n'est-ce pas, du système, parce qu'en réalité, nous n'avons pas, comme il vient de rappeler, on n'a pas le contrôle sur notre économie. C'est l'une des conséquences de la forte dépendance à l'aide. Parce qu'on vous donne de l'aide et c'est des conditionnalités économiques comme ça qui sont posées. On vous donne de l'aide, mais vous nous vendez tel ou tel produit avec telle ou telle conditionnalité. Donc, dans cette dynamique, on aura suffisamment de mal à contrôler effectivement notre système économique.
Alors, quand le représentant de Misael annonce un processus qui serait en cours pour parvenir à un financement autonome, est-ce que ça vous rassure?
Ce n'est pas trop rassurant. Peut-être que le processus... peut-être si le processus est mis en place à long terme, on verra peut-être bien ce que ça va donner. Mais moi, je me dis que tout repose sur une question de volonté. Même du point de vue du financement de l'organisation continentale, on constate qu'il y a beaucoup d'États qui ne contribuent pas à hauteur de soi. Il y a les plus grands contributeurs aussi qui sont là. À un moment donné, c'était le guide libyen Mohamed Kadhafi qui assurait presque la majorité du financement de l'Union, de l'organisation continentale. Donc, dans cette dynamique, je me dis que tout repose sur une question de volonté. Alors, si la volonté politique n'est pas là pour assurer un autofinancement de l'Union africaine, ça aura beaucoup de mal à se réaliser. Je me dis souvent que ce n'est pas une question de moyens. Les moyens sont à la disposition des États africains, les moyens sont à la disposition des dirigeants africains, souvent en raison de la mauvaise gouvernance, en raison aussi du désintérêt, n'est-ce pas, face à la compétence, mais face aux attributions de l'organisation continentale que les chefs d'État africains ont assez souvent du mal à procéder au financement de l'organisation continentale. Ça dépend de ce que, est-ce que l'organisation continentale sait qu'elle nous propose en termes de bonne gouvernance, en termes de démocratie, en termes de défis économiques, est unanimement accepté par l'ensemble des chefs d'État africains.
La question... Justement, volonté et soutien entre les États. Écoutons le représentant Yves Penda.
La Commission de l'Union africaine travaille inlassablement pour atteindre l'objectif, comme le disait le président, à l'objectif visant à faire parler l'Afrique d'une seule voix sur la scène internationale, particulièrement dans le contexte actuel où, vous savez, le multilatéralisme semble être remis en cause. Et donc, c'est le travail que l'Union africaine est en train de faire au quotidien pour garantir une voix sur la scène internationale, justement, qui serait la preuve de son indépendance.
Alors, est-ce que les États africains eux-mêmes se soutiennent quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé en Libye?
Vous savez, la question qu'on peut se poser par rapport à la situation en Libye est très, très profonde. Aujourd'hui, par exemple, il y a une réunion qui se tient à Paris sur... les voies de résolution de la crise en Libye, mais faut-il le rappeler, les initiatives sont multiples sur cette question-là. Et il a fallu à un moment donné que l'Afrique, à travers la commission, le président de la commission africaine, puisse s'exprimer pour dire que la question libyenne ne devrait faire l'objet de tiraillement sur la scène internationale et qu'il faut un consensus sur ce règlement et notre continent ne peut pas être écarté du règlement de cette question-là. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et l'Afrique a toujours été présente depuis le déclenchement de cette crise. Et la diplomatie a toujours été privilégiée au niveau de l'Union africaine. Et concrètement à tous ces tapages médiatiques que vous connaissez.
Est-ce le cas au Mali aussi, avec la crise que nous connaissons dans ce pays?
Je pourrais vous dire que l'Afrique a été au chevet du Mali dès les premiers moments de la crise et elle y est restée jusqu'à aujourd'hui à travers notamment la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel qui est dirigée par son Excellence le président Pierre Bouloulia, qui est au Mali depuis 2012. Et le continent est représenté depuis, vous savez, depuis la MISMAL, les négociations de Ouagadougou qui ont permis la tenue d'élections jugées crédibles en 2013, malgré les conditions qui étaient difficiles. Et l'Union africaine, à travers la MISAEL, était présente dans le processus de négociation d'Alger et nous sommes partie prenante dans le cadre du suivi de l'accord à travers notre participation aux instances du comité de suivi.
Maître Amadou Tchéoulé Ndiara, toutes ces crises en Afrique, coup d'État, des élections qui seraient bâclées également, la corruption, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine fait quelque chose dans ce sens?
Oui, parce que d'abord concernant la corruption, je pense qu'il y a les instruments. L'Union africaine a fait un pas important dans le cadre du régionalisme. Il y a une volonté réelle de lutter contre la corruption Mais je pense que ces instruments doivent être pris par chaque État au plan national. Parce que ce n'est pas l'Union africaine qui viendra en tant que telle venir lutter contre la corruption au Mali. Il faut qu'il y ait une volonté nationale. Il faut qu'il y ait une volonté des Maliens. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, dans les pays, et précisément le nôtre, nous avons des instruments de contrôle, mais en réalité, le problème de la crédibilité se pose. Est-ce que c'est dans l'institution ou dans ceux qui animent l'institution? Est-ce que la question de la crédibilité, c'est dans ces institutions ou dans les personnes, en fait, qui animent? Je pense que vous prenez les institutions, vous les lisez, elles sont magnifiques. Je pense que tout le problème de l'Afrique et précisément de notre pays, le problème, c'est la crédibilité de ceux qui ont en charge de mettre en œuvre les instruments de contrôle contre la corruption. Et maintenant, leur mise en œuvre. Je pense qu'à ce niveau, nous ne sommes convaincus d'absolument de rien. Et puisque nous avons des jeunes parmi nous, il faut que les générations se convainquent que c'est dès aujourd'hui que les jeunes doivent commencer la rupture avec nous. Parce que tous les instruments de lutte contre la corruption sont là aujourd'hui, irréprochables. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à lutter contre la corruption? Première question. La deuxième question concernant ces conflits, c'est la question du pouvoir. C'est le pouvoir qui est l'enjeu. Les gens en Afrique, ils viennent pauvres au pouvoir, en tout cas la plupart. Mais ensuite, quand on amasse des milliards, on se pose la question de savoir, est-ce que je vais quitter le pouvoir? Est-ce que je peux quitter le pouvoir? Parce qu'en le quittant, vous avez dans la tête qu'on va vous traquer. C'est tout le problème. Mais si les gens venaient au pouvoir comme la première génération des chefs d'État, je vais en citer, ça va peut-être faire mal, la génération des Modibo, la génération des Sékou Touré, la génération des Kwame Nkrumah, allaient nous montrer leur maison. À la différence des générations actuelles, où les gens, c'est la concurrence pour avoir effectivement des immeubles, telle chose, par exemple, dans tel pays africain. Mais je pense que pour l'Europe, bientôt, ça va commencer, parce que les blanchiments d'argent, les gens, ils se détournent de l'Europe maintenant pour aller, en fait, dans les pays arabes. Vous avez vu, tout le monde le sait aujourd'hui. L'enjeu, c'est le pouvoir. Or, avoir le pouvoir, effectivement, pour uniquement s'enrichir et non, en fait, pour développer le pays. C'est ce qui fait qu'il y a les crises. Il y a des gens aussi qui se nourrissent de ces crises-là et c'est cynique. Les gens ne pourront pas comprendre, mais il y a des crises aussi qui sont fabriquées. Ils sont fabriquées parce que les gens, ils se nourrissent de crises. Ils ont leur fortune dans les crises. Ils ont beaucoup d'avantages dans les crises. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons arriver à régler cette question?
Celle du Mali a-t-elle été créée, selon vous?
La crise du Mali. Oui. Mais nous n'en serions pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas des paramètres, en fait, qui ont commandé à ça. Il ne faut pas régler un problème de crise en dehors, effectivement, des considérations économiques.
L'Union africaine est-elle consciente de cela, selon vous?
Bon, mais l'Union africaine, elle peut être consciente de ça, mais impuissante. Parce que l'Union africaine, c'est des suggestions, c'est des recommandations, mais l'Union africaine ne peut pas gérer un pays à la place des nationaux. L'Union africaine peut suggérer. L'Union africaine peut donner des directions. L'Union africaine peut donner, pardon, des directives. Il peut conseiller. Mais en réalité, l'Union africaine ne peut pas, en fait, gérer. Là où l'Union africaine pouvait avoir, par exemple, le bâton de commandement, si tout le monde était conscient que le président de la Commission devait avoir, en fait, les véritables pouvoirs, non seulement de direction, mais au-dessus de tous les chefs d'État. Or, vous savez que les chefs d'État, ils ne vont jamais renoncer au pouvoir constitutionnel que leur constitution leur donne. Ils ne vont pas le faire. Et ce qui fait que, eh bien, nous avons du chemin encore à parcourir pour qu'on arrive aux États-Unis d'Afrique. Si nous étions conscients que les États-Unis d'Afrique étaient une nécessité pour les pays africains, nous aurions commencé à doter le président de la Commission de l'Union africaine des pouvoirs qu'il lui faut pour effectivement
harmoniser certaines situations ou uniformiser évidemment certaines règles de conduite.
Alors, Monsieur Doumbia, est-ce que le problème de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes ?
C'est les Africains parce que c'est vrai, on a toujours tendance d'accuser l'Occident, d'accuser, comme on appelle, certaines puissances industrialisées, d'être à l'origine du mal de notre continent. C'est vrai, du point de vue de l'histoire, ça a été une réalité. Mais au regard de ce qui se passe chez nous, à cause même de notre propre comportement, à cause de la corruption, à cause de la répression des manifestants, à cause de mauvaise gouvernance, à cause du détournement des deniers publics, à cause au regard aussi des stratégies de conservation du pouvoir, tout ça, on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'Occident. Nous avons aussi une grande part de responsabilité, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive. Maître vient de rappeler, nous avons des institutions extrêmement fragiles, n'est-ce pas, pour lutter contre la corruption, le ministre ou le président qui se rend coupable de détournement du denier public, il faut que l'Assemblée nationale joue extrêmement son rôle pour lui mettre en accusation. Et cela, cette accusation sera un moyen de, comment on appelle, de prévenir sur d'autres infractions à venir. Le seul garde-fou peut-être qu'il y a, c'est la pression populaire, les mouvements populaires. À chaque fois s'il y a mauvaise gouvernance, à chaque fois s'il y a dérapage dans un État, c'est le peuple qui sort pour dire non. Et à travers cela, il y a toujours gain de cause. Donc il faut que toutes les institutions jouent pleinement leur rôle pour lutter contre cette situation. Alors l'Union africaine n'est pas suffisamment outillée pour faire face à certaines crises. Dans la plupart des cas, elle se rallie derrière soit les institutions régionales, soit certains partenaires, certaines institutions onusiennes. Dans la plupart des cas, l'Union africaine devient spectatrice, n'est-ce pas, des différentes crises sur le continent. Quand je prends l'exemple sur le cas du Mali, on constate depuis le coup d'État jusqu'à la fin de la période transitoire en 2018, c'est la CEDEAO qui a joué pleinement le rôle. L'Union africaine s'est toujours, n'est-ce pas, placée derrière la CEDEAO et dans certains États aussi en même temps. Dans la plupart des cas, elle va même, quand elle prend souvent active une place prépondérante dans la résolution de certaines crises, elle va même souvent à l'exagération. Quand je prends l'exemple sur le cas de la Gambie récemment, l'Union africaine avait voulu utiliser la force, n'est-ce pas, pour faire partir le président gambien. Au Mali également, il y avait eu cette menace qui avait été proférée à l'égard, à l'encontre des autorités militaires qui avaient pris le pouvoir, ce qui était en violation flagrante du droit international, parce que quand vous prenez l'acte constitutif de l'Union africaine qui autorise des interventions militaires, surtout en cas de violation massive des droits de l'homme, en cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais elle ne peut agir que sous l'autorisation expresse des Nations Unies, conformément au chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Donc, dans cette hypothèse, cela intervient surtout en cas de menace ou de peur à la sécurité internationale, ce qui était loin d'être le cas pour les cas du Mali et de la Gambie.
D'accord. Monsieur Diarra, on dit très souvent que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Et on voit beaucoup plus de crises en Afrique qu'ailleurs. Comment expliquez-vous cela ?
Bon, comme vous l'avez si bien dit avec la question précédente, et la corruption. La corruption en est le problème. Ensuite, il y a ce que j'ai dit dès le début, il y a l'adversité qui est là. Les adversaires, nous les connaissons, qui font de telle sorte que l'union que nous voulons, que ça ne se réalise pas.
Les adversaires, nous les connaissons, c'est qui ?
Des adversaires, c'est-à-dire les pays colonisateurs.
D'accord.
Les pays qui ont colonisé le continent africain.
Est-ce que la France est adversaire au Mali ?
Au Mali, la situation ici, on peut l'apprécier de différentes manières, la coopération avec ces pays. Mais ce que je peux dire, c'est que les maux que nous avons ici, c'est dû d'abord à la corruption. Parce que c'est avec la corruption d'abord qu'il y a le phénomène de migration. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine est confrontée à ces problèmes. Et l'Union africaine, comme ils ont si bien dit, est faible face à ces problèmes, même s'ils ont tenté quelque chose en 2014 avec l'Union européenne pour pouvoir au moins résoudre ces cas de migration. Mais là, les résultats sont restés vains. Et ensuite, comme conséquence de la corruption, il y a la question du terrorisme toujours et les conflits. Toujours quand une classe sociale s'accapare de tous les revenus d'une nation, forcément ceux qui sont là vont un jour ou autre là se soulever contre, et là ça va amener souvent le désordre. Donc je pense que c'est vrai, le continent africain en termes de développement, nous sommes pauvres, mais en réalité nous avons beaucoup de ressources qui peuvent nous permettre.
Est-ce que c'est pas une mentalité aussi quand on voit les jeunes même qui pensent toujours que l'Europe est mieux que l'Afrique?
Oui, chez nous aussi, il a cité dans ses interventions le cas, par exemple, des pères fondateurs. Nous, au niveau de la jeunesse africaine, c'est une question de conscientisation, c'est une question de sensibilisation. Ces pères de l'indépendance de l'Afrique, le peu de temps qu'ils ont eu à faire au pouvoir, les actes qu'ils ont posés, vraiment, si les jeunes d'aujourd'hui s'imprégnaient de ces idées-là et dirigeants de demain, je pense que le sort de l'Afrique, vraiment, va être intéressant.
D'accord. Les solutions pour parvenir à mettre fin à tout cela, à développer l'Afrique, comment y parvenir, Maître Amadou Tchiolendjara?
Bon, on est optimiste. Quand on vit, on doit espérer. Mais ça, c'est un idéal. Mais au-delà, maintenant, il y a des instruments qu'on nous propose. Par exemple, si vous prenez nos relations dans le cadre du partenariat appuyé Union européenne, parce que c'est le partenariat le plus important aujourd'hui, il y a une volonté réelle de se développer. De l'autre côté, avec les partenaires, on souhaite que l'Afrique, eh bien, puisse se prendre en charge elle-même. Mais quand nous prenons les accords de partenariat économique, il y a un problème. Il y a un problème parce que vous savez qu'il y a des difficultés qui entourent la signature. Or, c'est un gros morceau. Et vous savez également qu'il y a en fait le faux bon de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont, je pense, signé des accords intérimaires dans ce cadre, alors que l'Union africaine est une entité. Et vous savez que ça, c'est malheureux d'abord. Mais ça veut dire simplement que chaque pays marche sur la base de ses propres intérêts. Mais si nous prenons ce cadre-là, on a dit, quand nous signons les accords, évidemment, nos partenaires auront les possibilités en fait de venir, et nous aussi nous aurons les possibilités d'exporter.
Justement, je reviens à cette question de mentalité qui fait que l'Africain pense toujours que ça viendra quand Dieu le voudra, avec cet espoir.
Bon, oui, parce que nous sommes obligés de penser comme ça, parce que malgré les élections, les chefs d'État vous diront que c'est Dieu qui m'a donné mon pouvoir. Ça, vous ne pouvez absolument rien. Parce que les gens que même vous mobilisez pour aller voter, nous sortons un peu du droit, allons dans l'anthropologie. Même les gens qu'on mobilise, on pense que c'est le fait du marabout ou du grand féticheur qui les chicote pour qu'ils aillent voter. Et quand on a cet esprit, on ne peut pas respecter l'électorat. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous pensez qu'une force les a contraints pour voter pour moi, parce que il ne faut pas qu'on se place, quand nous critiquons les institutions en Afrique, dans la même dynamique qu'en Europe. Non, il faut sortir de là. Parce que ici, le chef d'État, les dirigeants africains pensent que c'est les forces mystiques qui ont contraint
ils
les
ont
gens
contraint à les élire. Alors, c'est ça. Est-ce que pour le 29 juillet, ce sera le cas où on pourra éviter ce genre de situation, Monsieur Doumbia?
Précisément, quelle situation?
L'élection. Concernant les élections, quand les gens pensent toujours que c'est Dieu qui les met à leur place.
Non, c'est pas Dieu qui décidera. Ce qui est sûr, Dieu peut donner le destin d'un peuple à quelqu'un, mais c'est le peuple qui décide. Ce qui est sûr, c'est le peuple malien qui déterminera qui sera président de la République.
Peut-on s'attendre à des élections apaisées?
À des élections apaisées. C'est vrai, pour le moment, les prémices d'une crise post-électorale sont posées. Alors, la transparence du processus électoral, c'est une question aujourd'hui qui est posée au regard de ce qui se passe sur le terrain. Il y aura beaucoup de problèmes à rester dans le cadre d'une élection crédible, transparente et apaisée. Nous sommes en crise. Les conditions, n'est-ce pas, il est très difficile dans une situation de crise d'éviter une crise post-électorale. Donc c'est à l'ensemble de tous les acteurs de prendre les jeux pleinement leur rôle pour éviter des crises post-électorales.
Merci. Désolé, M. Diarra, c'est ce qui met fin, le temps fait de fou. À ce grand dialogue qui portait sur la célébration de la journée de l'Union africaine, les acquis et les défis que cette institution devra relever, et nos invités, Mokhtar Diarra, secrétaire général de la jeunesse de l'Union africaine, Fousseyni Doumbia, constitutionnaliste et universitaire, et maître Amadou Tchéoulin Diarra, avocat et membre de la société civile. Grand dialogue réalisé par Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diarra, régie vidéo, assurée par M. Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.